Le deuxième siècle et la dynastie des Antonins fut un siècle de prospérité pour l'Empire romain. Après Trajan, on vit se succéder Antonin, dit Antonin le Pieux, de 138 à 160, puis Marc Aurèle, de 161 à 180, prolongé par Commode entre 180 et 192. Commode était un matérialiste qui détonne un peu dans la suite de ses prédécesseurs raffinés et philosophes. Commode se prenait pour un dieu, se fit faire une statue en Hercule. Les persécutions continuaient de manière sporadique, sauf du temps de Commode qui passait sa vie au cirque. Les persécutions continuent, conséquence de fureurs populaires dues à des catastrophes naturelles ou à des épidémies. Ce fut aussi, ce qui est intéressant, la période des apologistes, écrivains de talent s'adressant aux autorités. On peut prendre en exemple un texte de Saint Justin qui disait, écrivait à l'empereur « Je ne vais ni vous flatter, ni vous demander grâce, nous vous demandons justice. Nous vous prions de bien vouloir nous écouter avant de nous juger, d'examiner notre conduite et notre vie avant de nous condamner. Nous vous reconnaissons comme prince et vous révérons d'autant plus que, à nos yeux, votre autorité vient de Dieu. » Malgré tout, les calomnies contre les chrétiens continuaient de plus belle. On les accusait d'être athées et impies et même d'être en complaisance avec les ennemis de Rome alors qu'ils en étaient les meilleurs soldats. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les mensonges et les calomnies sont très bien accueillis par ce qu'il est convenu d'appeler le politiquement correct. Pour plus de détails, regardez la radio, la télévision et écoutez la radio. Rappeler à l'empereur que son pouvoir vient d'en haut est très sérieux. L'obéissance aux autorités est une obligation pour tout chrétien, à condition que César n'empiète pas sur le terrain réservé à Dieu, ce qui devient hélas de plus en plus fréquent de nos jours. Il n'est que d'entendre parler de ce projet de loi rendant obligatoire pour certains membres du personnel hospitalier de participer à l'avortement et à l'euthanasie. Satan cherche à aller toujours plus loin dans le domaine qui devrait être sauvegardé. Comment accepter que César impose à de jeunes enfants d'une dizaine d'années le spectacle d'un film à la gloire de l'homosexualité? Être catholique est de plus en plus difficile de nos jours, faisant toutefois confiance au Christ qui nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Face à des adversaires de mauvaise foi, Saint Justin criait « Chaque jour, il déclame en public contre nous que les chrétiens sont athées et impies, sans savoir le premier mot de ce dont ils parlent. » Là encore, nous avons la même chose de nos jours. Que ne prend-il la peine d'étudier notre doctrine ? Voilà ce qui pourrait s'adresser à bien des journalistes, à des hommes politiques. Les empereurs laissaient faire, comme Marc Aurèle, dont on a dit qu'il était un bon philosophe, mais pas un très bon administrateur. À noter que ce fut le seul empereur qui portait la barbe, parce qu'il se prenait pour un philosophe oriental. Le deuxième siècle vit l'apparition d'hérésies qui connaîtront des répliques jusqu'à nos jours. Satan a tendance à se répéter. Outre les torrents de calomnies contre l'Église, ne citons que les mensonges déversés sur Pie XII et aujourd'hui sur Benoît XVI, on peut citer trois directions de ces hérésies. Premièrement, le gnosticisme, dont il a déjà été question. C'est l'hérésie intellectuelle par excellence qui prétend découvrir à une élite ce que l'on cache au vulgaire. Exactement le contraire de la parole du Christ qui remerciait son Père d'avoir découvert aux petits ce qu'il avait caché aux savants. Au IIe siècle, les gnostiques prêchaient que le Dieu Tout-Puissant était inaccessible et se trouvait au XXe siècle, rien que ça. Une vingtaine d'éons en émanaient. L'un est Jéhovah des Juifs, un autre est le démiurge organisateur du monde qui a introduit le mal, un autre s'est emparé du Christ au moment de son baptême et l'a quitté avant la passion. Il n'a donc eu qu'une apparence de passion. La matière pour eux est mauvaise en soi, le Christ n'a pas souffert son chemin de croix. Du temps de Saint Jean, les docètes l'avaient déjà prétendu, tellement le mystère d'un Dieu souffrant est insupportable. C'est pour nous un sujet inépuisable de méditation et aussi d'aide à supporter les souffrances que nous avons à rencontrer. Les gnostiques imitaient les sacrements. Ils avaient un baptême de l'eau, une coupe pour un semblant d'eucharistie, une onction à l'huile, mais l'essentiel a disparu. Saint Paul nous le rappelle. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes les plus malheureux des hommes. À la frontière des gnostiques fourmillaient des livres présentés comme les écrits de tel ou tel apôtre, dans lesquels des témoignages authentiques côtoient des récits complètement fantaisistes. Ce sont les écrits apocryphes. Jésus enfant est représenté semant des miracles sur sa route. Certains récits complètent la passion, d'autres vont jusqu'à décrire le séjour du Christ au limbe. Cette manière des apocryphes ressurgit régulièrement, mélangeant le vrai, le vraisemblable et le complètement imaginaire pour la plus grande joie des crédules. Je me rappelle avoir vu dans un musée un tableau de la Sainte Parentèle présentant les trois maris de l'Évangile et leurs enfants, les apôtres, qui se trouvaient tous des cousins, sauf Judas, bien sûr. Il ne faut certes ni mépriser les croyances populaires, ni les prendre pour parole d'Évangile. Face au risque de crédulité, il ne faut pas sombrer dans un intellectualisme qui prétend prendre le cerveau de quelque intellectuel comme mesure de la foi, comme c'est trop souvent la mode aujourd'hui. On a cherché depuis quelque temps à dévaloriser la traduction des Septante écrite par des Hébreux au IIIe siècle avant Jésus-Christ, en lui opposant celle des Massorètes, intellectuels du Xe siècle, qui furent accusés de tordre quelque peu les textes pour en effacer les passages qu'annonçait le christianisme de façon trop évidente. La découverte des manuscrits de Qumran au siècle dernier a montré que cette accusation n'était pas sans fondement et que la version des Septante qui a servi de base à la Vulgate de saint Jérôme, n'était pas un simple travail d'amateur. Depuis les années 1960, on voit fleurir des commentaires qui ont la prétention de débarrasser les textes officiels de leur ronron bigot, je sais ce que j'ai lu, et de mettre fin aux croyances et superstitions d'un Moyen-Âge considéré comme crédule et un peu crétin. De nos jours, on dirait nunuche. Débarrassons-nous des bigoteries de saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, Pascal et autres pères certilanges. Moi, je vais vous dire ce qu'il en est réellement. Et de désosser les évangiles et le Nouveau Testament, y trouvant deux saint Paul, trois saint Jean, quatre ou cinq Marie-Madeleine, et réécrivant le texte à leur manière. Certains sont allés jusqu'à affirmer que les évangiles avaient été écrits 100 ans après les événements et n'étaient que des témoignages reconstitués par des communautés éparses. Un fleuron tardif de ces divagations est le Da Vinci Code. Pour répondre, rappelons simplement le souvenir des premiers martyrs. Est-ce vraiment pour des sornettes qu'ils ont accepté d'être livrés au lion? Du côté de la foi, nous devons affirmer que Saint-Pierre a été institué gardien de l'Église, rôle transmis à ses successeurs. Le Saint-Esprit est une assistance divine, un guide qui prend en charge l'intégrité de la doctrine. L'examen de tel ou tel point peut être confié à un concile, mais le pape a le dernier mot. Lorsque l'Église catholique décide que tel dogme fait partie de la doctrine catholique, elle déclare que ce dogme vient des apôtres et qu'il n'est que l'approfondissement d'une révélation close avec le Nouveau Testament, révélation après laquelle il n'y en a aucune autre. Il est symptomatique de constater que la Sainte Vierge a dit à Sainte Bernadette qu'elle était l'Immaculée Conception après la déclaration officielle de l'Église. Le deuxième sujet d'hérésie, c'est le montanisme. Selon les historiens, Montan venait de Phrygie, il avait vraisemblablement été prêtre de Cybèle. Il se croyait directement inspiré du Saint-Esprit. Il avait avec lui deux femmes qui prophétisaient. Il disait de l'une d'elles, « Maximilia sera la dernière voix prophétique. Encore 15 ans et le Christ va paraître. » Il a écrit ça en 170. Et alors commencera le règne de 1000 ans annoncé dans l'Apocalypse. Montan prenait une intransigeance absolue qui déboucha sur l'analogie avec le pharisaïsme. À ce propos, l'abbé Huvelin relate le propos d'un juif à Renan, l'écrivain bien connu. « Vous condamnez le pharisianisme comme pénible. Moi, je le trouve commode, car il me permet de dire « j'ai fini, me voilà quitte ». C'est une constatation de tous les temps. Condamner les autres à partir de la lettre, en prétendant s'appuyer sur l'esprit. À ce jeu, on risque fort de glisser dans la vanité, voire dans l'orgueil. Relisons la parabole de la paille et de la poutre. Montan condamnait les deuxièmes mariages, il en vint à condamner le premier, car la venue du Christ était imminente. Il renchérissait sur le jeûne, y ajoutant une période xérophage pendant laquelle il était prescrit de ne manger que des aliments secs. En cas de persécution, on se devait d'aller au-devant du martyr, ce que déconseillaient les évêques. Les montanistes n'avaient en vue que la fin du monde. Ils attendaient le règne du Saint-Esprit, ils disaient que l'Ancien Testament avait été le règne du Père, le Nouveau Testament, celui du Fils, celui du Saint-Esprit, devait lui succéder. Il y a eu dernièrement une réapparition de cette hérésie. Déçus de la permanence de la présence du mal dans le monde, beaucoup voudraient connaître la création nouvelle dont parle saint Jean. Mais, comme certains pères l'ont dit, si l'Ancien Testament était l'ombre et le nouveau l'image, ce n'est qu'après la fin du monde que nous connaîtrons la réalité, la vision béatifique. La tentation du pharisaïsme est toujours actuelle. On a vu les cathares chez lesquels les parfaits devaient mener une vie des plus austères, les jansénistes, et actuellement on voit ressurgir les offensives sur l'alcool et le tabac et sur les pénitences à accroître, sur l'importance de telle ou telle pratique liturgique. L'attente de la fin du monde est toujours d'actualité. Qu'il soit permis de rappeler la réflexion de ce jeune élève de Saint Jean Bosco, Saint Philippe Néri, on lui avait posé la question, si vous étiez en train de jouer aux billes et qu'on vous annonçait la fin du monde dans un quart d'heure, que feriez-vous ? Je continuerai à jouer aux billes puisque ce serait là mon devoir du moment. La troisième hérésie qui reparaît toujours, c'est le quarto décimo. La troisième affaire pleine d'enseignements, qui agita l'Église sous le règne du pape Saint Victor entre 189 et 199. Il s'agit de la date de la fête de Pâques. Pour certains, on devait la fêter le jour de la Pâque juive, le 14 du mois de Nisan, jour de la mendication de l'agneau pascal, selon un précepte du livre de l'Exode. C'est ce que l'on continua à faire dans les premiers temps du christianisme, l'agneau pascal étant devenu le Christ. On appelait cette fête la Pâque crucifiée. Mais, deux ou trois jours plus tard, on fête la Pâque de la résurrection, dogme fondamental et pierre angulaire de notre foi, comme nous l'avons vu. Le banquet fraternel convenait quand même mieux à un jour de joie qu'à un jour de jeûne. La Pâque de la résurrection était célébrée dans la liesse. Les Asiatiques qui célébraient Pâques le 14 de Nisan cessaient le jeûne à 3 heures de l'après-midi et faisaient grande fête avant cette Pâque de la résurrection. La discussion dura longtemps avant de s'envenimer. Déjà en 155, le pape Saint Anicet tenta sans succès de convaincre saint Polycarpe, évêque de Smyrne consacré par saint Jean, d'adopter l'usage de l'Église de Rome, Pâques le dimanche. Mais en 190, l'évêque Polycrate écrivit au pape Saint Victor une lettre très vive se terminant ainsi. « Ainsi, moi qui ai vécu 65 ans dans le Seigneur, j'ai été souvent avec les frères dispersés dans le monde entier, j'ai lu toute l'Écriture, je ne tremblerai pas devant les menaces, de bien plus grands que moi l'ont dit, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. » À la suite de cette lettre pour le moins énergique, Saint Victor excommunia Polycarpe. Ce n'était pas un anathème au sens propre du terme, car il ne s'agissait pas d'une question de doctrine, mais d'une mise à l'écart. Un autre évêque, Saint Irénée, dont le nom était en quelque sorte prédestiné, puisqu'en grec « Irène » signifie la paix. Saint Irénée donc écrivait à Saint Victor que cette excommunication était bien dure pour une affaire qui n'était qu'un point de discipline. Saint Irénée réussit non sans mal à faire lever l'excommunication. Les quarto décimo continuèrent à célébrer Pâques le 14 de Nisan, mais leur rang ne cessait de s'éclaircir jusqu'au concile de Nicée qui fixa la date de Pâques en 325, soit 150 ans plus tard. Deux leçons peuvent être tirées de cet épisode douloureux. D'abord, la primauté de l'évêque de Rome. Dès cette époque, il était admis qu'il avait une juridiction sur les églises du monde entier. C'est à Saint Victor qu'écrivit Polycrate. Ensuite, que certaines disputes sur des points, disons, secondaires vis-à-vis du dogme lui-même peuvent prendre sur le coup une importance qui semblera démesurée aux yeux des générations futures. Je ne pense pas que de nos jours, beaucoup se mettraient en colère au sujet de la fixation de la date de Pâques et fourniraient un prétexte à excommunication. Comment les générations futures jugeront nos actuelles querelles liturgiques ? Le pape Benoît XVI réussira-t-il à ramener la paix dans l'Église comme le fit Saint Irénée, alors que le monde a tellement besoin de sa présence unie dans ce monde de haine? Prions pour le retour de cette paix, il paraît que ça s'annonce très bien, non seulement avec Saint Pidis, mais aussi avec les orthodoxes. Prions donc pour le retour de cette paix qui redonnera à l'Église une nouvelle force pour évangéliser un monde qui en a bien besoin. Je termine là. C'était un peu long et j'ai un peu bafouillé. Je vous prie de présenter mes excuses. La prochaine fois, nous attaquons au IIIe siècle.